Voilà, moi j'ai le plaisir d'accueillir une dame dont vous avez certainement entendu parler. Voilà, vous m'entendez tous, oui. Marie-Françoise Fuchs, si je vous dis Fondation Hold Up, alors vous faites tous comme ça évidemment. On va en apprendre un petit peu plus. Je vais faire le tour pour aller la rejoindre. On va avoir une petite causerie ensemble sur la scène. Et vous verrez qu'en fin de compte, cette dame est impressionnante à plus d'un titre dans l'ensemble de ses activités et en particulier dans ses activités qui l'amènent aujourd'hui parmi nous. Dites-nous alors, bon, j'ai dit en deux, trois mots, vraiment très très court, ce qu'était cette hold-up. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux, trois mots de plus? Dites-nous
d'abord,
quand elle est née et à quoi elle sert.
Et d'abord, je voudrais dire bonjour à tous et à toutes, et puis dire ma reconnaissance d'être ici cet après-midi, parce que j'ai franchi déjà le cap du grand âge, après 85. Donc, c'est un cadeau fabuleux d'avoir la parole, même quand on a dépassé les limites. Les limites, je ne sais pas ce que c'est exactement, parce qu'on peut continuer à vivre pleinement, intensément, je crois, jusqu'au bout de sa vie, avec les moyens modestes, mais avec les moyens qui vous restent, mais des moyens qui sont là. Alors je le souhaite à chacun d'entre vous et à tous, et c'est un des rôles de Hold Up, c'est de redonner le tonus, si je peux dire, en tout cas le goût et une capacité à penser qu'être vieux, c'est un cadeau. C'est un cadeau, c'est formidable, on nous a allongé le temps de vie, c'est fabuleux, donc il faut en faire quelque chose. Et en faire quelque chose, c'est d'abord être quelqu'un en devenir, augmenter si possible ses capacités relationnelles et de dons et de curiosité et d'apprentissage. Alors, Hold Up, c'est une association de vieux, voire de très vieux. Nous avons maintenant un nombre assez important de nonagénaires. Parce que c'est ceux du début, on a un peu plus de 10 ans. Ceux du début, nous nous sommes définis comme plus si jeunes, mais pas si vieux, ayant envie de participer à la société, envie de vivre, envie de croître et d'achever le mieux possible. On n'achève jamais complètement, mais enfin, d'aller aussi loin que possible dans notre tâche d'être humain et d'être dans la société, des êtres en devenir. Donc, nous sommes maintenant en train d'expérimenter une tranche beaucoup plus importante qu'au début. Au début, on était très octoplus, et maintenant, on a des plus jeunes et des plus vieux qui ont dépassé les 90 ans. C'est une étape.
Alors, je vous arrête, parce que tout ce que vous dites est formidable, mais dites-nous, quelle a été l'action la plus emblématique que vous aviez menée il y a une dizaine d'années quand c'est né, ce mouvement ?
C'est d'abord, justement, se ressourcer entre soi, s'appuyer les uns sur les autres. Je crois beaucoup aux forces des groupes, aux forces mutuelles que l'on échange. Et on a commencé à essayer de se réunir pour parler ensemble, réfléchir ensemble, penser autour des sujets qui peuvent intéresser cette tranche d'âge et se demander, se poser des questions. Nous sommes une nouvelle génération. Il y a 10 ans, c'était les octogénaires. Aujourd'hui, ce sont les nonagénaires. C'est-à-dire que on est en train d'explorer, on est complètement en train de créer quelque chose, de réfléchir quelle est notre place, notre fonction, notre rôle dans la société, comment nous pouvons être des partenaires qui sont de joyeux apporteurs plutôt que de grincheux plaignants. Et je pense qu'on a assez réussi parce que nous nous réunissons entre nous régulièrement dans plusieurs types de groupes qui posent des questions diverses comme vieillir c'est difficile, mourir et alors, et différents autres sujets, vieillir en couple. On a une vingtaine de groupes qui se réunissent régulièrement une fois par mois et tout le monde vient avec plaisir rencontrer des vieux. C'est-à-dire nous sommes entre nous et nous n'avons pas peur. Au contraire, parce que nous avons le sentiment de pouvoir parler et de pouvoir être entendus et d'échanger et de progresser et de prendre avec un peu de distance et d'humour ce qui est en train de nous arriver et de faire des découvertes.
Quel est le rêve, si on peut parler de rêve plutôt que d'objectif, quel est le rêve en fin de compte que vous portez?
Alors je porte un rêve supplémentaire à celui simplement de restaurer un petit peu notre confiance en nous et de faire partie. Participer chacun à nos ressources. Nous avons tous des ressources, essayons de les trouver. Moi, je suis une grande amateur de la méthode Montessori, qui, au lieu de lister les déficits et les défaites et ce que nous ne pouvons plus faire, font le bilan. Un bilan, c'est pour voir qu'est-ce que nous sommes encore, quelles sont nos compétences actuellement, qu'est-ce que nous pouvons justement développer. Et je pense que déjà, pour moi, le but de cette première étape, qui est de reprendre confiance, de s'appuyer les uns sur les autres et de faire ensemble, ça a été de trouver comment nous pourrions participer à la société et avoir une action de terrain, une action citoyenne, une action modeste avec les forces qu'on a. Bon, on n'est plus toujours en plein parfait état, mais on peut contribuer. On a quelque chose à donner. Nous sommes des cavernes d'Ali Baba, tous les vieux, on a une expérience de vie, on en a fait des choses. Et on est peut-être justement des apports intéressants, et en particulier dans le relationnel. Je crois que notre société, là où elle est en difficulté, c'est justement dans une relation qui ne soit pas basée sur la compétition, sur une brutalité dans les manières dont on se côtoie, où on s'engueule en voiture ou partout ailleurs, et on voudrait la place assise dans l'autobus plutôt que de la donner à celui qui semblerait peut-être en avoir besoin, de développer par notre sourire, par notre contribution à redonner un plaisir relationnel et une joie de vivre qui est peut-être quelque chose pourquoi il n'y a pas de concurrence du côté des plus jeunes qui ont à produire des choses. Eh bien, nous pouvons peut-être passer une partie de ce temps-là que nous avons à améliorer le relationnel entre les êtres, dans notre société.
Parce que c'est ça qui manque le plus, votre constat en fin de compte historique, c'est ça qui vous a guidé d'abord.
Oui. Nous faisons des expériences d'action dans les établissements sanitaires et toutes ces choses-là. Nous essayons de participer au maximum pour essayer de faire bouger les choses. Et nous constatons souvent dans les établissements, je ne sais pas comment c'est en Suisse, parce que nous avons surtout exploré des établissements en France, mais le soin technique est quelque chose qui progresse. C'est vrai que les établissements ont de meilleure façon d'aider à reprendre quand on a eu un accident, on s'est cassé la patte, etc. Eh bien, je trouve que le soin technique fait des progrès réels. Il y a un projet de faire avancer le progrès technique. Qu'est-ce que nous avons constaté en allant en immersion dans ces établissements à plusieurs et pour essayer d'observer ce qui se passe? Il n'y a pas de projet de soins relationnels. Or, quelqu'un qui repart chez lui en ayant fait de la gymnastique pour arriver à remarcher, c'est une chose. Ce n'est pas suffisant pour reprendre une vie avec confiance, pour aller plus loin et pour avoir tout à coup une inspiration pour que la vie devienne plus intéressante, s'ouvre quand on retourne chez soi. Le soin relationnel, on vous laisse abandonner. On vient vous voir pour vous donner, vous faire la toilette, vous donner à manger, vous piquer. Et puis vous faire quelques exercices.
Mais je vous arrête. Donc vous avez été, ce que vous nous expliquez, c'est que vous avez été une escouade de hold-up. Oui. Vous avez débarqué dans ce qu'on appelle les EHPAD en France, qui sont les EMS chez nous. Vous avez été mandaté, vous êtes arrivé par surprise, ça s'est passé comment ?
Pas par surprise, c'était d'accord avec les établissements. On a investi plusieurs établissements, nous sommes allés par deux, parce que c'est plus facile aussi, par deux, et nous avons été formés avant pour savoir faire une observation le mieux possible, in vivo. Nous avons vécu comme les patients qui étaient alités ou qui avaient des ennuis de santé et qui étaient en rééducation. Et nous avons fait un rapport. Il va paraître un petit livre, j'ai dit que je vous en enverrai un dès qu'on l'aurait. Mais notre propos, c'est de faire avancer certaines choses qui concernent l'accueil, qui concernent le fait de tenir qu'un malade, c'est pas une maladie avec qui on a affaire, c'est une personne. Et que cette personne, elle a envie d'exister, elle a envie qu'on lui parle et qu'elle puisse écouter, qu'elle puisse parler, qu'il y ait quelque chose qui se passe. C'est comme pour le nourrisson. Toutes les expériences ont montré que des nourrissons, vous savez, c'était pendant la guerre, les Américains avaient fait des expériences très importantes là-dessus. Un nourrisson bien traité, dans l'hygiène, bien nourri, etc., s'il n'y a pas de lien qu'il appelle à la vie, de lien de relation, il meurt. Eh bien, je crois que le vieux, c'est la même chose. Je crois que nous avons un besoin urgent d'avoir des relations vraies, authentiques, des relations qui nous touchent, des relations affectives, des relations qui stimulent notre pensée, qui font que le matin, quand on n'a rien à faire toute la journée, qu'on s'ennuie et qu'on se réveille, qu'est-ce que je vais encore faire aujourd'hui ? C'est une horreur. Si on a la perspective d'une rencontre, ah, aujourd'hui je vais déjeuner avec mon petit-fils, ou peu importe, ou avec une amie, etc., ou faire quelque chose ensemble. On se lève avec plaisir. Toute la joie, c'est se retrouver. De toute la vie, c'est le plus important, c'est de trouver des relations d'affection, des relations de stimulation de notre pensée, de voir qu'est-ce qu'on vit, comment on va jusqu'au bout, qu'est-ce que c'est. Quand on a fait le groupe sur mourir et alors, on s'est demandé s'il y a une dame qui est dans un de nos membres, a dit, moi je veux parler de la mort, il faut faire quelque chose. On a dit, bon, mourir et alors. Et puis il y a eu 15 inscrits immédiatement, on a dit, après c'est trop. Alors on a fait un deuxième groupe sur le même sujet. Et puis au bout de un an ou deux, là-dedans, ils ont changé le titre. Ils ont continué à se réunir et ils ont appelé ça le sens de la vie. Le sens de la vie, ça veut dire que ce qui est important, c'est que cette vie qui nous est donnée, ce temps extraordinaire, qu'est-ce qu'on va en faire ? Comment on va l'utiliser ? Comment on va le rendre à la fois justement utile dans la société que nous formons, parce que je crois que chaque membre de la société, il a une place, il a un rôle. On ne peut pas être autrement, on est dedans. Et donc il faut que nous inventions, parce que ça n'a pas encore existé, quelle est notre place et quelle est notre fonction là-dedans, et qu'on avance ensemble vers quelque chose qui crée à la fois du sens, de l'utilité sociale et du bonheur.
Dites-moi, je vous arrête parce qu'on vous comprend bien, cette formidable énergie. Alors, on voit bien ce qui pousse, évidemment, mais néanmoins, on est toujours par rapport à quelqu'un, par rapport à l'autre, qu'il s'agisse de jeunes, de moins jeunes, de la société, des autorités. Hein, vous dites que vous avez débarqué à l'époque, je crois que vous avez travaillé avec la police, la RATP, enfin, la liste est longue, c'est impressionnant. Comment réagissent les autres ?
En général, nous sommes très bien reçus. On a beaucoup de chance.
Au début.
Parce que nous sommes là pour proposer et pour dire, est-ce qu'il y a quelque chose que nous pourrions faire qui serait intéressant pour vous ? C'est-à-dire que nous ne venons pas avec des revendications, on ne nous aime pas assez, on ne nous fait pas assez de machin. Nous sommes dans la proposition de participation. Nous disons, ne faites pas pour nous, faites avec nous. Ça, c'est très très important, c'est la base. C'est que nous souhaitons aussi que notre parole existe. On a beaucoup de mal, les vieux, on dit oh, ça suffit, là, c'est radoté, etc. Alors, quand on nous écoute, quand on nous consulte sur notre vie, sur qu'est-ce que nous attendons, qu'est-ce que nous voudrions, quand nous pouvons parler de nos sentiments, parler de notre ressenti, eh bien, nous existons autrement. Et je crois que c'est une des grandes choses, et c'est pour ça que je suis très reconnaissante, encore une fois je le dis, d'avoir été invitée ici, c'est une merveille, pour vous rencontrer, parce que j'espère que vous poserez beaucoup de questions et que nous pourrons dialoguer. C'est une rencontre. De toute façon, j'ai déjà eu la chance de rencontrer quelques-uns des responsables de la Fondation LENA. Alors, mais c'est une joie, ce sont des amis, ce sont des gens auxquels je vais penser quand je rentre. Et je me dirai, ah, tiens, il faudra que je prenne contact pour leur redire, parce que ça vous intéresse ceci, moi ça m'intéresse cela. Et je suis passionnée par tout ce que j'ai lu sur les différentes personnes qui vont se réunir tout à l'heure. C'est formidable ce qui se fait ici.
Alors on voit bien que vous avez une énergie folle, je le répète, et c'est vraiment formidable. Cela dit, oui, on peut imaginer qu'il y a aussi des personnes plus âgées qui sont seules, qui n'ont pas cette énergie-là. Qu'est-ce qu'on peut leur dire ?
Mais parce que je crois qu'à tout moment dans la vie, je pense que d'abord la retraite étant tellement longue, il y a des phases, il y a des époques. On peut faire certaines choses à 65, 70 ans qu'on ne peut pas du tout faire à 90, 95. Et puis, il y a un problème. C'est une des choses que nous étudions en ce moment de près. C'est dans nos... C'est, nous avons quand même le sentiment que, bien entendu, il y a eu l'émergence, donc ce que je disais tout à l'heure, des octogénaires. Maintenant, on essaye d'étudier justement quelles sont les capacités, quels sont les handicaps aussi pour essayer d'y pallier du nonagénaire. Un des handicaps les plus fréquents, à part les maladies graves qui sont quand même difficiles, c'est la mobilité. C'est-à-dire que plus on est âgé, plus ça devient difficile de sortir de chez soi, de prendre le métro, le tramway ou le bus, et le risque d'isolement, le risque de ne plus avoir de rencontres, de ne plus être stimulé par les choses qui nous plaisent, qui nous font plaisir, faire une balade, aller tout à coup, tout ça devient beaucoup plus difficile. Alors, nous sommes en train de travailler avec les villes amies des aînés. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Je ne sais pas si Lausanne en fait
partie. On les connaît, elles sont moins investies en Suisse qu'on connaît.
Et avec un certain nombre de gens, pour essayer de trouver qu'est-ce qu'on peut faire pour que les personnes qui deviennent moins ingambes, enfin qui peuvent moins bien se déplacer, comment faire pour qu'ils puissent continuer à avoir une vie relationnelle, avoir une vie stimulante, une vie de joie. Alors, nous avons fait d'abord, on continue à faire une étude, des entretiens, etc., pour comprendre la vie quotidienne du nonagénaire. Et aussi, nous avons mis en place des expérimentations auprès de nonagénaires qui sont dans des établissements ou qui sont à domicile, différents établissements de type plus ou moins médicalisés et au domicile, pour savoir justement s'ils ne pourraient pas utiliser la tablette numérique pour communiquer, pour faire des jeux, pour s'amuser à des loisirs. Il y a des quantités de jeux depuis la réussite, le domino, tout ce qu'on veut qu'on peut faire. Et surtout, il y a un moyen d'entrer en relation avec ceux qu'on aime. C'est-à-dire, on essaye de stimuler les jeunes à faire des vidéos, à faire des photos des petits, que ce soit nos arrière-petits-enfants ou nos petits-enfants, de les filmer, de nous envoyer ces petites vidéos et que nous puissions justement aussi, à ce moment-là, manifester auprès de ces générations pour montrer notre joie, que nous sommes dans le coup, on est dans le coup, parce qu'on les voit. Moi, j'ai un petit-fils un peu petit, j'en ai des très grands, mais enfin bon. Alors, il a perdu sa première dent, il était furieux, sa maman a pris des photos, je les regarde très fréquemment, ça m'amuse, je souris, j'ai du plaisir et je suis en lien. Et du coup, ce lien-là, c'est quelque chose qui existe avec toutes les générations. Les parents, qui sont très contents que je m'intéresse à la perte de la dent, le petit garçon, il a 7 ans, c'est l'âge des dents qui partent, je peux lui téléphoner, lui dire, tu sais, j'ai vu, c'est formidable, est-ce que la petite souris est venue ? C'est-à-dire que les moyens, je dirais, virtuels, ne sont pas seulement des handicaps à la relation avec le corps de l'autre, mais ils sont des moyens d'entretenir des relations extrêmement agréables, extrêmement nourrissantes de sentiments. Parce que le soir, si dans votre lit, vous regardez, récemment, il y avait la fête à l'école de mes petits-enfants, de ceux-là qui sont des petits, alors sa maman les a filmés, je les vois chanter, je les vois se déguiser. Alors qu'est-ce que je fais ? J'ai un lien et j'ai un plaisir formidable. Je crois qu'il y a à développer, ça coûte zéro. Il ne faut pas oublier que du moment qu'on a l'instrument, ça coûte zéro, cette communication. Elle est extraordinairement plaisante.
C'est un objectif de HoldUp Internet. Comment ? C'est un des objectifs de HoldUp.
Ah oui.
Toute la vie numérique pousser, et donc Internet.
De pousser beaucoup, et on fait l'expérience que sur les nonagénaires. Hein, c'est-à-dire que justement, mettre en main avec des étudiants, alors ça fait aussi des relations entre jeunes et vieux, qui viennent deux fois par semaine pendant 3 mois pour mettre en main les jeux, les échanges d'images et de vidéos, et puis évidemment aussi l'accès à l'information si on le souhaite, ou des SMS pour... Enfin, c'est plus des SMS là, c'est des mails.
WhatsApp. Qu'on vous parliez changer. De WhatsApp il y a quelques instants. Hein.
Comment ?
Vous utilisez régulièrement l'outil WhatsApp, vous-même ?
Ah ben, l'outil, oui, moi je m'en sers naturellement. Mais ouais. Ce que je veux dire, c'est que nous pensons qu'il y a des moyens qui paraissent peut-être... Il y a des personnes de nonagénaires qui nous disent « Moi, ça ne m'intéresse pas, ce truc-là, je ne veux pas le savoir. » Alors, nous savons que c'est le premier pas qui coûte. Alors, on fait en sorte, on essaye de franchir ce premier pas dans pas mal de domaines, de même qu'au début de notre association, on a fait de gros efforts avec les SMS pour faire des textos, pour que les vieux... C'est le moyen de communication actuel. Ben, il ne faut pas qu'on reste à côté, il ne faut pas qu'on soit sur le bord du chemin. Continuons à apprendre. Nous sommes des apprentis centenaires, c'est un terme qu'on utilise quelquefois, mais c'est vrai, il faut que nous continuions à apprendre. Nous, et on apprend avec des jeunes. Ce sont des relations qui se développent et qui sont très fructueuses. Tous les étudiants que nous avons eus et qui ont fait des formations pour des personnes âgées, même déjà pas en très bon état, ont dit que c'est une expérience exceptionnelle. Pour nous, ça compte. Humainement, nous avons fait un pas et nous sommes tellement heureux d'avoir pu faire ça.
Donc le bénéfice est dans les deux sens.
Un bénéfice des deux côtés.
Vous êtes combien aujourd'hui dans
l'association ? Je ne sais pas, parce que ce n'est pas le nombre, je dirais, qui se réunit, qui est important, c'est toute l'influence et les expériences pilotes qu'on fait et la parole qu'on porte, qui, j'espère, crée quelque chose, un goût et une potentialité qui se développe de ne pas abandonner. Je crois qu'au contraire, plus on vieillit, plus il faut être de plus en plus intelligent. J'ai une amie qui a la DMLA, c'est pas de chance, mais alors elle est fière d'elle parce qu'elle a trouvé des stratégies pour continuer à sortir. Je tourne la première à droite, puis la deuxième à gauche, et puis là je prends la quatrième maison et je monte chez ma copine. Alors elle dit, mais maintenant j'ai du mal à me balader parce que je vois rien, mais je le fais et je suis fière de moi, je suis vraiment... Alors je pense que nous avons à développer des sens, des idées, trouver devant les difficultés. Il y a un monsieur, un des inspecteurs de l'association, enfin de l'agence de santé en France, qui dit si l'homme a comment dirais-je, être au-dessus des choses qui lui arrivent. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on en fait de ce qui nous arrive ? Il y a des trucs, on ne peut rien faire et il faut être aidé. Dieu merci. Ça, c'est autre chose. Il y a des gens qui veulent bien essayer, quand nous sommes trop mal, de venir à notre secours. Ils nous créent un berceau différent, mais ils nous créent quelquefois des berceaux médicaux et pas du tout de berceaux de personne à personne. Ça, c'est très regrettable. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là qu'on continuera tout le temps à essayer d'avancer.
Vous êtes reconnu d'utilité publique ou d'intérêt général, c'est juste.
Général, oui.
Qu'est-ce que ça signifie pratiquement ?
Pardon ?
Qu'est-ce que ça signifie pratiquement ? Est-ce qu'il y a un bénéfice aussi par rapport à l'État ?
Je ne sais pas. On était très contents qu'on nous ait qualifiés d'intérêt général, mais bon, les titres et les machins, c'est
ça
pas
vous a pas donné
principal.
Des moyens. Vous n'avez pas eu plus de moyens à disposition,
non.
Ou même des locaux ou des téléphones.
Non. On aurait besoin. Alors, en fait, on a besoin de temps en temps d'un peu de support parce que nous sommes tous bénévoles, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas faire. Alors donc, de temps en temps, on est bien obligé d'avoir recours. On ne sait pas éditer, on ne sait pas... Alors, bien sûr, nous avons besoin d'un petit peu pour pouvoir essayer de communiquer, puisque notre ambition, c'est à la fois d'être là, présent, attentif, écoutant, et en même temps acteur. Et donc, il nous faut quand même quelques moyens, et on essaye de les trouver. Jusqu'à présent, on a été très soutenus par la presse, par le show. On avait fait, tout au début, on s'est préoccupé de tous ces moyens, je dirais, du digital, par exemple, de prendre ses billets dans les machines pour le train. Et alors, on a fait des séances pour que chacun puisse maîtriser. C'est pas si difficile. Quand on s'est exercé plusieurs fois, on est crétin, mais au bout d'un moment, on finit par y arriver, parce que c'est quand même possible. Et ça a eu beaucoup de succès. On a été très soutenus dans ces avancées, si vous voulez, que nous essayons d'avoir par rapport à maîtriser un petit peu notre présent, parce que nous vivons dans un présent dans lequel les outils qui se développent à tous égards ont besoin que nous puissions les utiliser. Si nous ne pouvons plus bouger, on ne peut plus communiquer. Mais je crois qu'il y a quelque chose de très fort qui nous anime, c'est d'essayer de redonner confiance à chacun qu'il a un potentiel formidable et qu'il ne faut surtout pas le laisser se gâcher.
Vous dites réenchanter la vieillesse, c'est ça ?
Ah oui, ça c'est sûr.
C'est un très beau oui. slogan en tout cas. Merci oui, infiniment merci en tout cas. Je vous propose de l'applaudir bien chaleureusement. Voilà. Avec plaisir.